Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Près de 3 millions de Français en 2012 seraient atteints de diabète. Dans le monde, environ 350 millions de personnes seraient touchées par cette maladie et les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ne vont qu'en s'empirant puisque d'ici 2030, ils annoncent que plus de 550 millions de personnes seraient atteintes par le diabète. À l'occasion de la journée mondiale du diabète qui est fêtée tous les ans à la date du 14 novembre, le professeur Claude Jaffriol, endocrinologue à Montpellier et membre de l'Académie nationale de médecine, que nous avons joint par téléphone, va nous éclairer sur une nouvelle manière de traiter cette maladie avec l'aide de la chirurgie. Un processus qu'il a présenté lors d'une séance commune de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie et dans lequel il explique que la chirurgie métabolique peut aider à traiter le diabète de type 2. Bonjour professeur Jaffriol, vous avez donc rendu un rapport lors d'une séance commune de l'Académie de médecine et de l'Académie de chirurgie dans lequel vous expliquez que la chirurgie métabolique peut aider à traiter le diabète. Alors ça pourrait être un véritable tournant dans le traitement de la maladie ?
Ce qui m'a été demandé, c'était de faire un état des lieux pour savoir si les projets d'extension de la chirurgie chez les diabétiques à des diabétiques qui ne sont pas très obèses ou qui sont en simple surpoids est envisageable. Voilà exactement le sujet. La situation est la suivante, la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la chirurgie de l'excès de poids, a été largement développée dans le monde et en France, mais jusqu'à maintenant ne concernait que des sujets qui étaient avec des obésités qu'on appelle morbides et qui se définissent par un indice de masse corporelle supérieur à 40 ou à 35 lorsqu'il y a une complication, lorsqu'il y a une comorbidité. Et donc c'était des sujets très très gros, si vous voulez. Et à partir de cette expérience, on a constaté que l'obésité, évidemment, régressait de manière spectaculaire, mais qu'également le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie diminuaient. Et en ce qui concerne le diabète, on a constaté que le diabète disparaissait dans un pourcentage important de cas, de l'ordre de 80%, dans des délais très rapides, beaucoup plus rapides que la perte de poids. Cette observation a donc conduit certains à se dire, mais dans le fond, on pourrait utiliser la chirurgie pour le traitement du diabète chez des sujets moins gros, qui sont beaucoup moins gros. Et donc, dans le monde, il y a eu des essais qui ont été faits et qui ont confirmé une efficacité de la chirurgie sur le diabète chez des sujets qui avaient des indices de masse corporelle inférieurs à 35, voire inférieurs à 30. Et de là est venue l'idée qu'on pourrait étendre largement ces techniques chirurgicales à des diabétiques où le problème de poids n'est pas le problème essentiel, mais où le diabète est le problème essentiel. Voilà, si vous voulez, l'histoire. Alors, que penser de tout ça? Eh bien, ce que j'ai dit dans mon exposé, c'est que ces données étaient très intéressantes, mais qu'il y a quand même certaines réserves à mettre en avant. La première, c'est que le mode d'action de la chirurgie sur le diabète n'est pas parfaitement connu. Il y a des hypothèses, il y en a plusieurs, et quand il y a beaucoup d'hypothèses, ça prouve qu'aucune n'est absolument certaine. Par exemple, on a mis en évidence le fait que l'intestin, après ses modifications du circuit intestinal, peut sécréter des hormones, qu'on appelle d'ailleurs des incrétines, qui facilite la reprise, la remise en marche du pancréas. D'autres ont dit que c'était des modifications du microbiote, c'est-à-dire de la composition microbienne de l'intestin. D'autres ont dit que c'était des modifications de la néoglucogénèse intestinale, etc. Donc, il y a une incertitude sur les mécanismes. Deuxième point plus important, c'est que ces interventions ne sont pas quand même des interventions anodines. Il ne faut pas les présenter comme des gestes bénins. Vous savez qu'il y a quatre interventions qui sont proposées. Il y a l'anogastrique qui, lui, a bien entendu l'avantage d'être le moins traumatisant, puisqu'on ça consiste à mettre un anneau autour de l'estomac pour diminuer la capacité du volume de l'estomac, et c'est une intervention évidemment réversible. Ensuite, il y a une intervention qu'on appelle la sleeve gastrectomie, ou gastrectomie en manchon, qui consiste à rétrécir l'estomac sous la forme d'un tube. Ensuite, il y a des interventions qui modifient le court-circuit intestinal. C'est ce qu'on appelle les shunts gastriques, où on abouche l'intestin au-dessous de l'estomac, ce qui court-circuite le duodénum et une partie du jejunum, c'est-à-dire la partie de l'intestin grêle qui est près du duodénum. Et puis, il y a des interventions encore plus compliquées qu'on appelle les dérivations bilio-pancréatiques. Or, on a observé que ces interventions étaient d'autant plus efficaces qu'elles étaient plus lourdes. Si vous voulez, la dérivation bio-pancréatique est la plus efficace, mais c'est aussi celle qui peut donner le plus d'accidents, de complications, etc. Et l'anneau est le moins dangereux, si on peut employer ce terme, et l'intervention qui donne le moins de complications, mais qui est aussi la moins efficace. Donc, quatre interventions. Mais ce qui se fait le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire la gastrectomie en manchon, ou la dérivation gastro-jéjunale, qu'on appelle encore le roux en Y. Et ces interventions, il y a quand même parfois des complications, il ne faut pas l'oublier. Il peut y avoir des fistules, il peut y avoir des embolies pulmonaires, il peut y avoir... La mortalité est certes faible, mais il y a quand même parfois des ennuis périopératoires. D'autre part, les gens opérés ont l'obligation d'un contrôle diététique rigoureux, c'est-à-dire qu'ils doivent manger plusieurs fois par jour et de petites quantités. Et en même temps, il y a un contrôle des apports en micronutriments et en vitamines qui est indispensable parce que ces interventions entraînent des carences en micronutriments et en vitamines. Ça peut poser des problèmes, par exemple, chez des femmes jeunes qui deviennent enceintes pendant la grossesse. Il y aura des problèmes de surveillance accrue pendant la grossesse. Donc, vous le voyez, on ne peut pas dire que c'est une chirurgie anodine. Et là, ça pose problème. Nous verrons pourquoi. Le troisième point à considérer, c'est le risque de rechute. Alors, il y a des études récentes qui montrent que les sujets opérés regrossissent moins que ce qu'ils étaient avant. Ils deviennent moins gros, mais ils regrossissent et le diabète peut réapparaître. Donc, si vous voulez, on ne peut pas considérer que le sujet est définitivement guéri de son diabète. Alors, voilà les restrictions. Les avantages, je vous les ai présentés au début, sont évidents au niveau de la perte de poids lorsque les sujets sont très gros, mais chez les sujets qui sont de poids modéré, de surpoids modéré ou tout, le bénéfice sur le poids sera moins important. Sur le diabète, évidemment, il sera intéressant. Que conclure à la suite de ces remarques? Eh bien, je crois qu'actuellement, la prudence impose de conclure qu'il faut faire des études longitudinales, randomisées et contrôlées pour comparer une population opérée à une population suivie selon le mode traditionnel. Pour pouvoir appeler à une modification des règles édictées par la Haute Autorité de Santé. Vous savez en effet que la Haute Autorité de Santé a des règles très précises en ce domaine et n'autorise ces actes chirurgicaux que chez des sujets qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 40, ce qui correspond à des sujets vraiment énormes, ou supérieur à 35 s'il y a une comorbidité associée, par exemple un diabète.
C'est-à-dire que chez les gens qui souffrent d'obésité, en fait.
Ah oui, ça c'est les règles actuelles de la Haute Autorité de Santé. Alors, déroger à ces règles, il faut que ce soit dans un cadre légal. À mon avis, il faut qu'il y ait des études complémentaires très bien faites, longitudinales et prolongées, suffisamment de temps, pour démontrer que le rapport risque-bénéfice n'est pas défavorable à long terme. Et ces études, nous n'en avons pas. Il y a deux études qui ont été publiées au printemps 2012, d'un dénommé Schoer et d'une italienne de Rome, mais qui a 2 ans comme suivi, qui montre que la chirurgie sur le diabète a un bénéfice supérieur aux traitements médicaux classiques. Mais ce qui compte, c'est d'avoir des études beaucoup plus longues. Maintenant, au cas par cas, lorsque le médecin est confronté à un problème particulier. Je pense que dans un cadre pluridisciplinaire et avec l'accord des autorités de santé, on peut envisager faire cette chirurgie chez des sujets qui ont par exemple un excès de poids modéré et qui ont un diabète mal équilibré, malgré une diététique bien suivie, malgré une hygiène de vie correcte, malgré un traitement médicamenteux bien conduit. Si le diabète est vraiment mal équilibré, on sait que ces sujets sont exposés à des complications. Et si le résultat d'un diabète bien traité n'est pas bon, on peut là discuter l'éventualité d'un acte chirurgical. Ça peut également se discuter chez des adolescents obèses avec un diabète dont on sait que l'évolution sera très très défavorable à condition qu'il n'y ait pas de troubles de compulsion alimentaire comme ça se voit parfois chez les adolescents. Parce qu'il faut dire que lorsque vous avez des troubles psychologiques, des troubles de compulsion alimentaire, comme on le rencontre non seulement chez les adolescents, mais aussi chez des obèses adultes, ces troubles psychologiques vont persister malgré l'opération. Et donc après l'opération, ces gens-là continueront à absorber en faible quantité, mais des aliments hypercaloriques qui feront qu'ils regrossiront allègrement après l'opération, parce qu'ils se gaveront, de, par exemple, les condensés sucrés, de pâtes riches en graisse, en lipides, de, voyez-vous, de choses comme ça. Et ça s'est vu, ça. C'est pour ça que la décision opératoire est toujours polydisciplinaire et qu'il faut toujours un avis psychologique. Ça, c'est très, très important. Une autre indication possible, ce sont les femmes diabétiques qui veulent une grossesse et qui sont obèses et qui n'acceptent pas ou sont négligentes, ne se traitent pas comme il faut, médicalement. Et l'on sait que les enfants nés de ces femmes diabétiques seront eux-mêmes à haut risque de diabète. On sait aussi que la grossesse risque d'être très compliquée, à la fois pour la mère et pour l'enfant. Dans ces cas-là, un acte chirurgical avant la grossesse peut être intéressant. Il y a des études dans la littérature qui montrent le bénéfice. Vous avez également le problème des gens de plus de 60 ans. Actuellement, on n'opère pas les gens de plus de 60 ans lorsqu'il s'agit de diabétiques mal équilibrés, malgré un traitement bien suivi. Donc, voyez-vous, il y a une série de situations cliniques où l'indication opératoire peut se discuter et je pense qu'il ne faut pas rejeter actuellement la chirurgie dans ces cas-là. Mais je le répète, bien, j'insiste beaucoup là-dessus, sous réserve que ces cas soient l'objet d'une indication posée par un groupe pluridisciplinaire, c'est-à-dire où il y a le chirurgien, où il y a le diabétologue, où il y a le psychiatre ou le psychologue, qui vont donner chacun un avis du bien fondé de la décision opératoire. Et d'autre part, il faut évidemment que ça se passe dans un cadre réglementaire. Ultérieurement, quand nous disposerons d'études suffisamment prolongées et bien conduites, on pourra alors peut-être réviser les règles actuelles qui fixent à 40, je vous le répète, d'indice de masse corporelle ou 35, la possibilité d'opérer les sujets obèses et éventuellement diabétiques. Voilà ce que j'ai exposé dans ma conférence.
Merci, professeur Jaffiol. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que le diabète est une maladie, comme le prouvent les prévisions des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, que c'est une maladie qui va s'étendre au fur et à mesure des années ?
Ah ben, je le crains fort. Vous savez, le diabète est une maladie de civilisation. Hein. Un facteur conditionnant le diabète, lié au diabète de façon péremptoire, c'est l'obésité. Ça va ensemble. La montée de l'obésité va avec la montée du diabète. Et pourquoi ? Eh bien, par exemple, dans les pays du tiers-monde, on a parfaitement mis en évidence que le paramètre le mieux corrélé à la poussée du diabète, c'est l'urbanisation. L'urbanisation s'accompagne d'une augmentation de l'obésité, du diabète, de l'hypertension, des maladies dégénératives et cardiovasculaires. C'est une maladie de civilisation, et je parle du diabète de type 2, essentiellement, c'est-à-dire non-insulino-dépendant. Mais c'est une évolution qu'il est malheureusement difficile de contrôler parce que l'on sait que par des règles hygiéno-diététiques appropriées, on pourrait casser cette évolution, mais malheureusement, les populations suivent leurs pulsions, sont conditionnées aussi par l'ambiance de vie, par des tas de facteurs, et puis on est peu efficace. Ce qui serait capital, à mon avis, c'est non seulement de dépister tôt les diabétiques pour les traiter tôt, mais surtout de dépister les prédiabétiques. Leur conseiller des règles hygiéno-diététiques qui les empêcherait de devenir diabétiques. Ça, ce serait le plus important.
Eh bien, merci beaucoup, professeur Jaffiol. Je rappelle que vous êtes endocrinologue à Montpellier et membre de l'Académie nationale de médecine. Merci pour votre éclairage.
Eh bien, écoutez, je suis satisfait si les quelques mots que j'ai prononcés vous ont convaincu et ont été utiles.
Eh bien, écoutez, il n'y a pas de raison. Je vous remercie en tous les cas de nous avoir consacré un peu de temps.